Vous savez que chaque semaine, nous nous réunissons avec le parcours E100, donc la Bible en 100 textes essentiels. Et ce que nous cherchons à faire par l'intermédiaire de ce parcours, ce n'est pas seulement encourager chacun à lire la parole de Dieu, mais c'est également aider chacun à développer l'habitude de chercher dans le texte biblique ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui dans notre situation. Parce qu'en effet, la Bible nous rapporte un certain nombre de faits, mais tous ces faits se sont produits dans le passé, il y a parfois même fort longtemps. Eh bien, si Dieu a fait en sorte que ces événements qui sont arrivés à d'autres personnes qu'à nous, bien sûr, mais s'il a fait en sorte que ces événements figurent dans sa parole, c'est que selon 1 Corinthiens 10, 11, tous ces faits leur sont arrivés, donc à eux, pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Eh bien, cette semaine, en tout cas pour la prochaine rencontre, la lecture va porter sur le livre des juges, entre autres. Eh bien, c'est à partir d'une des histoires bien connues du livre des juges que je vous propose de voir ce matin, en quoi cette histoire peut nous servir d'exemple pour notre marche personnelle avec Jésus. Et cette histoire, c'est celle de Gédéon. Nous ne verrons pas l'histoire de la toison où Gédéon demande à Dieu de lui confirmer sa volonté. Mais par contre, nous allons nous intéresser à l'histoire juste d'après, où Gédéon part combattre les ennemis du peuple de Dieu. J'ai déjà prêché sur ce texte il y a quelques années, mais ce matin, mon angle d'attaque sera différent. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre des juges, au chapitre 6 et 7. Je précise également que les textes seront projetés, que les textes de ces passages-là. Voilà. Avant d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, il nous faut déjà planter un petit peu le décor. L'histoire que nous allons lire se situe grosso modo 100 ans, 150 ans, après que le peuple hébreu soit rentré dans la terre promise par Dieu à son peuple. Et ça va se situer dans ce qui est actuellement Israël, et plutôt dans la partie du nord. Voilà, c'est là d'où est originaire Gédéon. Et en fait, cette région est régulièrement victime de pillards. Des nomades très nombreux. Juges 8 au verset 10 nous dit qu'ils sont 135 000. Et ce groupe très important est non seulement agressif, mais en plus ils sont très rapides parce qu'ils sont montés sur des chameaux, contrairement au peuple d'Israël qui eux sont plutôt sédentaires. Et voilà ce qui arrive lorsqu'ils débarquent en Israël. On voit ça au chapitre 6 du livre des Juges. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Voilà. Les Israélites se trouvent dans des situations dramatiques, parce que l'année ils travaillent, ils plantent, le Seigneur fait pousser, et quand ils engrangent leur récolte, les pillards arrivent au bon moment, ils arrivent sûrement pas au moment où ils sèment. Ils arrivent au moment où les récoltes sont prêtes et ils emmènent tout. Du coup, les Israélites sont réduits à une grande détresse. Et là, réduits à ces plus grandes difficultés, ils se tournent vers Dieu. Et il semble que le peuple de Dieu avait oublié de faire cela, qu'il avait perdu cette habitude de se tourner vers son Dieu. Mais là, c'est ce qu'ils font. Ils font appel à lui dans leur prière et Dieu va entendre leur prière et leur venir en aide. Et le texte que nous allons lire maintenant souligne plusieurs aspects de la manière dont Dieu intervient dans ce monde, mais aussi sur ce qu'il attend de nous. La première chose, c'est que souvent, pour intervenir dans le monde, afin d'y apporter de profonds changements, eh bien Dieu commence par nous envoyer en mission. C'est Dieu qui va agir puissamment, bien sûr. C'est Dieu qui va faire de grandes choses. Mais pour cela, il nous envoie en mission. Juges, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu pourrait parfaitement se passer de nous, et je pense que bien souvent ce serait même beaucoup plus simple pour Dieu. Nous sommes les serviteurs inutiles, la Bible nous dit, parce que oui, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais pourtant Dieu aime nous associer à la réalisation de son plan, et pour cela, il nous confie diverses tâches, il nous envoie en mission. Et Gédéon va accepter cette mission. Et nous passons maintenant au chapitre 7, et les lectures que nous ferons maintenant seront au chapitre 7, verset 1. Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Voilà, formidable. Gédéon a été envoyé en mission, mais il a réussi à entraîner avec lui de très nombreuses autres personnes. Mais cette puissance humaine apparente contrecarre le projet que Dieu poursuit. Verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Voilà, Dieu ne veut pas seulement libérer son peuple de ses ennemis. Dieu veut également utiliser cet épisode pour que son peuple se rapproche de lui, qu'il comprenne mieux qui est Dieu, et en particulier, Dieu veut mettre en lumière sa gloire. Lorsque Dieu nous confie une mission, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de nous pour faire les choses, mais c'est parce que Dieu veut utiliser la mission qu'il nous confie pour montrer sa puissance, sa sagesse, sa gloire. Mais avant que nous puissions être les témoins de la gloire de Dieu, Dieu nous demande de faire preuve de courage. Verset 3, « Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. » Merci, voilà. N'hésitez pas à me faire signe quand il n'y a pas les versets, parce que moi je ne vois pas ce qui se passe derrière moi. « Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. » Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. Voilà, ça c'est un peu curieux, hein, parce que nous pourrions croire que pour se glorifier, Dieu va utiliser qui ? Ben, les personnes les moins courageuses, celles qui ont le plus peur, c'est-à-dire celles qui vont le moins entreprendre, celles qui refusent d'affronter leur peur. Eh bien Dieu fait exactement l'inverse. Pour manifester à quel point il est puissant et glorieux, Dieu va s'appuyer sur ceux qui font preuve de courage. Ceux qui préfèrent rentrer chez eux afin d'y être en sécurité ne sont pas les serviteurs que Dieu recherche pour se glorifier. Là, on peut essayer de se mettre à la place du pauvre Gédéon, hein. Donc, pauvre Gédéon, moi je dirais. 33 000 hommes, c'est pas mal. 32 000, pardon, c'est pas mal. Et puis Dieu intervient, et les deux tiers d'entre eux rentrent chez eux. Voilà. Si un jour un responsable d'église intervenait et que les deux tiers de son effectif disent ben, « nous on rentre chez eux », je pense qu'il aurait une sérieuse explication à donner, en tout cas aux membres de son conseil. Dieu, lui, procède ainsi. Il renvoie les deux tiers de ses hommes. Mais heureusement pour Gédéon, hein, ceux qui restent à ses côtés, ce sont les plus courageux d'entre eux. Mais voilà, verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. » Alors parmi tout son peuple de serviteurs courageux, Dieu va faire une sélection. Dieu poursuit son plan, et pour que son plan se réalise, Dieu qualifie lui-même ses serviteurs. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, « Sépare les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. » Alors, le texte ne dit pas la raison pour laquelle Dieu a choisi ces hommes qui buvaient en portant l'eau à leur bouche, plutôt que ceux qui se penchaient dans l'eau pour boire. Alors bien sûr, les commentateurs ont sorti toutes sortes d'hypothèses. Et puis des fois, d'ailleurs, ça ne colle pas forcément ce qu'ils considèrent comme étant important. Mais en fait, on n'en sait rien. Ça, ce sont des hypothèses. Ce que nous savons par contre, c'est ce que le texte souligne. C'est Dieu lui-même, et selon ses propres critères, qui qualifie ceux à qui il veut confier une mission particulière. Moi, je suis certain que si Gédéon avait été consulté, il aurait eu d'autres critères que cela. Mais Dieu dit, ce sont ceux-là que je veux qui partent avec toi pour accomplir la mission que je t'ai confiée. Nous avons fini de voir comment Dieu a lui-même choisi ceux qu'il envoie en mission. Nous allons sauter au verset 16 pour voir maintenant ce que Dieu attend d'eux dans l'action. Lorsque Dieu nous envoie en mission, Dieu exige que nous soyons unis. Verset 16. Gédéon répartit les 300 hommes en trois groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Alors, pour les hommes qui ont fait peut-être en tout cas leur service militaire, ce que ces hommes sont en train de faire sur le plan militaire est totalement stupide. Parce qu'au lieu d'avancer en groupe et de concentrer leurs troupes, ils ne sont déjà pas très nombreux. Au lieu malgré tout de former un groupe concentré pour porter une attaque pointue, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils dispersent encore leurs maigres forces. Ils se répartissent tout autour du camp. Ils s'affaiblissent encore plus. Là, ça se passe la nuit. Dans un combat de nuit, qu'est-ce qu'on fait? On tire avantage de l'obscurité pour se cacher. On s'habille de sombre, on maquille son visage avec de la cendre afin de ne pas être vu. Eux, ils font exactement l'inverse. Ils sont là, avec des torches à la main, donc eux sont incapables de voir ce qui est à plus de 10 mètres devant eux. Mais par contre, pour tous les autres, et en particulier pour les archers du camp, ils forment des cibles idéales. Ils n'ont même pas besoin de chercher leurs ennemis, ils les voient, ils sont dans la lumière. Autre chose stupide, si jamais le camp de votre ennemi est endormi, eh bien, vous allez faire quoi? Vous allez vous approcher le plus silencieusement possible, afin de tuer le plus d'ennemis possible pendant leur sommeil. Eux, ils font l'inverse. Ils sonnent du corps pour les réveiller. Voilà, on arrive, réveillez-vous, préparez-vous. Mais ce n'est peut-être pas ça qui est le plus étonnant. Ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que ces 300 hommes font cela en même temps, chacun de leur côté. Mettez-vous à leur place. Il aurait été très facile pour chacun d'eux, puisqu'ils ne sont pas juste côte à côte, mais qu'ils sont répartis, il aurait été très facile pour chacun d'eux, quelque part, de se cacher, en comptant sur les autres pour prendre le risque. Voilà. Quand ils vont entendre Gédéon, ben, voilà. Moi, je reste tranquille, je vois ce qui se passe. Après tout, un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça change ? Mais non, il n'en manque pas un à l'appel. Et tous, chacun de leur côté, font exactement ce que Gédéon leur a demandé de faire. Je pense qu'ici, on comprend pourquoi Dieu cherchait des hommes courageux. Mais il ne faut pas simplement du courage pour faire cela. Il faut aussi avoir la conviction que Dieu va intervenir. Dieu nous demande... c'est les deux en même temps. Dieu nous demande d'avoir l'audace de compter sur lui. Regardez l'audace qu'ils ont eue. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon », tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette. Dans une situation pareille, les forces personnelles, quelles qu'elles soient, ne servent plus à rien. Parce que Gédéon et ses hommes sont 300 contre 135 000. Ça fait un combat à 1 contre 450. Ils sont éparpillés autour du camp, en position statique, ils ne bougent pas, exposés en pleine lumière, et ils n'ont même pas à la main d'armes ni offensives ni défensives. Parce que d'une main, ils tiennent une torche, de l'autre main, ils tiennent une trompette. Ils sont totalement exposés et vulnérables. Ils ont accepté la mission que Dieu leur a confiée, et vu leur situation, ils ne peuvent maintenant compter que sur Dieu pour être sauvés. Et Dieu va honorer l'audace de ces hommes. Ces hommes ont accompli la volonté de Dieu, et Dieu va intervenir en leur faveur. Dieu se glorifie en bénissant ce qui est conforme à sa volonté. Dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Dieu fait en sorte que la mission de ces hommes réussisse. Dieu a tout mis en place pour que ces 300 hommes qui accompagnent Gédéon soient les témoins des grandes choses que Dieu va accomplir. Ils ont vu de leurs propres yeux à quel point Dieu est glorieux. Et tout ça parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu, qu'ils ont surmonté leur peur et qu'ils ont eu le courage de s'appuyer sur lui. Alors, quel rapport y a-t-il entre nous et cet épisode qui s'est produit en Israël il y a environ 3500 ans. Comme je l'ai déjà cité tout à l'heure, selon 1 Corinthiens 10-11, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et il me semble qu'à partir de l'exemple de Gédéon et de ses 300 hommes, Dieu veut nous instruire sur la manière dont il agit et sur ce qu'il attend de nous. Reprenons les 6 points que j'ai relevés dans l'histoire de Gédéon et qui se trouvent également sur vos feuilles. Tout d'abord, pour se glorifier, Dieu nous envoie en mission. Alors, parfois, on peut avoir cette impression. Oui, mais voilà, très bien. Mais moi, Dieu ne m'a pas envoyé en mission. Oh, j'aimerais bien que Dieu me dise « Voilà ce que tu dois faire !» Mais Dieu ne le fait pas. Eh bien pourtant, voici quelques-unes, et quelques-unes seulement, des missions que Dieu nous a confiées. Par exemple, la mission de faire des disciples de Jésus. La mission de tout disciple, c'est de faire d'autres disciples de Jésus. Matthieu 28, 19 et 20. Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est une mission que Dieu a confiée à chacun de nous. Autre mission que Dieu a confiée à chacun de nous, nous aimer les uns les autres. Jean 13, 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Autre mission que Dieu a confiée à chacun de nous, lutter contre le péché dans nos vies et progresser dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration, c'est-à-dire la sainteté et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. » Aucun de nous, absolument aucun de nous, ne peut dire qu'il n'a pas reçu de Dieu une mission. Nous en avons même reçu plusieurs. La parole de Dieu ne cesse de nous dire ce que Dieu attend de nous. Donc, avant de nous demander parfois, avant de demander à Dieu de nous confier d'autres missions, nous devons chercher à accomplir tout ce que nous avons compris de la volonté de Dieu dans notre propre vie. Et ensuite, en ayant pris cette décision et en attendant de voir Dieu se glorifier, Dieu nous demande de faire preuve de courage. Alors, le courage, ce n'est pas ignorer la peur, parce que bien souvent, ignorer la peur, c'est plutôt de l'inconscience. Mais le véritable courage, c'est de faire le choix d'aller de l'avant malgré nos peurs. Ça, c'est du courage. Malgré nos peurs, nous faisons le choix d'aller de l'avant. Et si jamais nous manquons de ce courage-là avec Dieu, eh bien nous allons rester dans notre zone de confort. Nous allons seulement faire pour Dieu ce que nous sommes capables de maîtriser par nos propres capacités. Nous allons compter sur nous-mêmes au lieu de compter sur Dieu et de lui faire confiance. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Si jamais nous voulons voir Dieu se glorifier dans nos vies, mais aussi autour de nous, il nous faudra accepter de sortir de notre zone de confort et de ne pas faire comme ces hommes qui ont préféré rester chez eux, voilà, en sécurité. Nous devons oser nous appuyer sur Dieu. Et plus nous nous appuyons sur lui, qu'est-ce qui se passe? Plus nous pouvons constater que Dieu est un appui fiable. Et plus notre confiance en lui augmente. Et plus ça nous encourage. Et plus cela nous permet demain de nous appuyer encore plus sur lui. Mais cela implique qu'à un moment de notre vie, nous ayons fait le choix courageux de nous appuyer sur Dieu. Tant que nous ne ferons pas cet acte de foi, cet acte de courage, nous ne pourrons pas voir de nos yeux Dieu se glorifier, parce que nous ne compterons que sur nous-mêmes et jamais sur Dieu. Dieu cherche avant tout des serviteurs courageux, et une fois qu'il les a trouvés, Dieu qualifie lui-même ses serviteurs. Alors, à nous tous, Dieu demande d'accomplir certaines missions, celles que j'ai citées, ou par exemple, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais pour accomplir certaines missions particulières, Dieu appelle et équipe des personnes précises que lui-même a choisies. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu procède. Par les dons de son Esprit, par exemple, Dieu qualifie, il les rend capables, il qualifie ses serviteurs pour qu'ils puissent accomplir certaines missions. 1 Corinthiens 12, 4 à 7 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Et le verset 11 souligne l'entière souveraineté de Dieu. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. C'est par le Saint-Esprit que Dieu équipe, mais c'est également par son esprit que Dieu appelle certaines personnes à un ministère particulier. Acte 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Nous ne devons pas nous opposer à l'appel de Dieu, ni au nôtre, ni à celui que Dieu adresse à quelqu'un d'autre. Mais par contre, conduits par le même esprit, nous devons alors reconnaître ce que Dieu a fait. C'est important cette notion de confirmation des appels, parce que ça permet à la personne qui a été appelée d'avoir confirmation que ce n'est pas ses propres désirs, mais que ses frères et sœurs, conduits par l'Esprit de Dieu, ont la même conviction. Et ça permet également à ce qu'il y ait une véritable unité qui se forme autour de la personne qui est appelée à un ministère particulier. Encore aujourd'hui, pour manifester sa gloire, Dieu exige que nous soyons unis. Alors, unité autour des responsables, autour d'un projet, autour d'un mode d'action, et bien sûr, unis autour de nous. 1 Corinthiens 1:10 nous dit « Je vous en supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » L'unité au sein du peuple de Dieu est un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa gloire, mais aussi un moyen par lequel il agit. Nous devons veiller, mais aussi travailler activement à notre unité. L'absence d'unité met en lumière une chose dans une église, c'est que nous ne sommes pas en communion avec nos frères et sœurs, et par conséquent que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Mais l'unité au sein du peuple de Dieu est par contre la manifestation que nous appartenons tous à Dieu et que nous sommes conduits par quoi ? Par un esprit unique qui unifie l'ensemble du peuple de Dieu. Et pour être en situation d'agir pour Dieu, nous devons donc veiller d'abord à travailler à notre unité. Combien de missions ont échoué parce que au sein de cette mission, les gens n'étaient pas unis. Et qu'au lieu de faire ensemble, avec une vraie cohésion, un vrai appui, eh bien, l'un tirait d'un côté, l'autre tirait de l'autre, et plus souvent, ils se tiraient les uns sur les autres. Et bien sûr, Dieu ne bénit pas ça, parce que ce n'est pas le reflet de la présence de Dieu au milieu d'eux. Une fois que nous avons travaillé à cette unité, Dieu nous demande d'avoir l'audace de compter sur lui. Alors, l'audace est liée au courage, hein. Mais disons que l'audace, c'est le courage en action. Si nous voulons voir Dieu se glorifier, nous allons devoir faire preuve d'audace. C'est-à-dire que nous allons non seulement devoir faire preuve de courage pour faire des choses pour Dieu, mais en plus, nous allons devoir accomplir les choses, pas n'importe comment, à la manière de Dieu. Et des fois, je ne sais pas pour vous, hein, mais très souvent, moi, je constate que ce que Dieu me dit dans sa parole, la manière d'agir de Dieu, est très différente de ma manière d'agir à moi. Eh bien, si jamais nous voulons voir Dieu se glorifier, nous devons oser faire les choses à la manière de Dieu. Et voici, par exemple, une illustration de domaine où Dieu nous demande d'avoir de l'audace. Nous pensons, par exemple, que pour parler de Dieu à quelqu'un, nous devons attendre le moment favorable. Sinon, la personne ne sera pas réceptive. Moi, cela me semble parfaitement sensé. Mais pourtant, Dieu dit à Timothée, en 2 Timothée 4:2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » La parole de Dieu nous dit également des tas de choses qui, humainement, nous semblent totalement folles. Par exemple, si nous avons des gens qui sont contre nous, des ennemis, entre guillemets. Qu'est-ce que nous dit de faire, de quelle manière devons-nous chercher à nous comporter avec ces personnes? La parole de Dieu nous dit que nous devons prier pour nos ennemis et nous devons leur faire du bien. Moi, ça me semble très audacieux d'imaginer que si je vais faire du bien à mes ennemis, si je ne vais pas les renforcer. Naturellement, je serais plutôt tenté de me dire, mais il faut que je les affaiblisse. Dieu nous dit que nous devons chercher à leur faire du bien. Lorsque nous avons des difficultés d'argent, Dieu nous dit quoi? De donner généreusement. Lorsqu'un nouveau couple se forme, les amoureux, bien sûr, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent savoir si avant de s'engager ensemble, ils vont s'entendre dans tous les domaines, y compris sur le plan sexuel. Dieu nous dit, quelque chose de fou, que pour un couple réussisse, nous dit que la sexualité doit se vivre uniquement dans le cadre du mariage. Se marier avant, pas après. Lorsque nous avons parfois quelqu'un nous a blessé, quelqu'un nous a fait du mal, nous avons des fois de la rancune. Dieu nous dit de ne pas avoir de rancune, de ne pas chercher à nous venger, mais de pardonner. Dieu nous dit également une chose, que nous devons chercher à nous réconcilier avec notre frère ou notre sœur, même si ceux-ci sont fautifs. Souvent, nous, on fait quoi? D'abord, l'autre vient, comme j'ai un grand cœur devant Dieu, je vais lui pardonner, à ce moment-là. Mais Dieu nous dit de ne pas attendre, mais d'aller d'abord nous réconcilier. Humainement, je pense que nous sommes tentés de faire l'inverse, parce que cela nous semblerait bien plus efficace pour régler nos problèmes et pour gérer nos vies si nous faisions les choses à notre manière, avec ce qui nous semble censé. Eh bien, Dieu nous demande de faire preuve d'audace et de faire les choses dans tous les domaines de notre vie, à sa manière. Et c'est alors seulement, que nous permettrons à Dieu de manifester sa gloire. En effet, Dieu se glorifie en bénissant ce qui est conforme à sa volonté. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Dieu bénit ce qui est conforme à sa volonté. Nous voulons voir Dieu agir en se glorifiant. Nous voulons voir Dieu faire de grandes choses. Eh bien, cherchons à accomplir la volonté de Dieu, mais cherchons également à le faire à la manière de Dieu. Parce que Dieu ne bénit jamais le péché, c'est même contraire à sa nature, mais Dieu bénit par contre ce qui est conforme à sa volonté. C'est comme cela qu'il agit dans le monde, c'est comme cela qu'il manifeste sa puissance et sa gloire, c'est comme ça qu'il se glorifie aux yeux de ceux qui lui ont fait confiance. Dieu veut se glorifier devant nos yeux. Dieu veut se glorifier devant ceux qui lui font confiance. Alors, ayons le courage de nous appuyer sur Dieu. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation, de prière silencieuse. Seigneur, dans ta parole, tu nous révèles à quel point tu es grand, tu es puissant, tu es sage et tu es bon. C'est ce que tu es. Et non seulement tu nous demandes de croire cela, mais tout ce que tu fais est conforme à ta nature, à ta personne. Eh bien Seigneur, tu nous lances le défi de nous appuyer sur toi. Seigneur, tu veux nous encourager, tu veux bénir, tu veux intervenir dans ce monde, mais et pour cela, très souvent, tu fais le choix de passer par tes serviteurs. Eh bien, que nous soyons, Seigneur, des serviteurs qui répondent à ton appel. Que nous ayons le courage d'aller de l'avant. Que nous ayons l'audace de faire les choses à ta manière. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour que nous soyons émerveillés de voir tout ce que tu accomplis. Ô Seigneur, nous savons que tu es puissant, que tu es bon. Mais nous avons encore besoin, dans trop de domaines de notre vie, de le mettre en pratique. Eh bien Seigneur, nous voulons nous engager devant toi à le faire. Nous voulons te suivre, nous t'aimons. Nous disons que tu es le grand, que tu es la première place. Eh bien Seigneur, que ce soit le cas dans nos vies et que tout ce que nous allons faire, penser, dire, soit le reflet de la place que tu occupes dans nos vies. Glorifie-toi Seigneur, fortifie-nous, interviens dans ce monde qui en a tellement besoin. Amen.